Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français de ce vendredi 8 juillet 2022. Deuxième jour d'audition de Blaise Pascal Kararoumiyeh devant le procureur de la République à Karoussi. Le journaliste correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans cette province a comparu jeudi et vendredi sous plainte du directeur du bureau provincial de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage à Karoussi. Apprenez-nous à nous auto-développer et nous cesserons de tendre la main parce que nous ne le faisons pas par plaisir, crient des enfants en situation de rue et des adultes mendiants de la province de Mongué suite à la mesure de les chasser de la rue et même de les condamner. Changement à la tête du tribunal de résidence de Lumongué. C'est un ouf de soulagement chez les habitants de Lumongué. Ces derniers avaient dénoncé en avril dernier les mauvais agissements du président sortant de ce tribunal devant le ministre de la Justice. Les détails dans ce journal.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ouvrons cette édition avec l'actualité judiciaire. Le journaliste correspondant de la radio-télévision Isanganiro en province Karoussi a été entendu par la justice vendredi pour le deuxième jour consécutif. Blaise Pascal Kararoumiyeh a été auditionné par le procureur général de la République dans cette province suite à une plainte déposée par le directeur du bureau provincial de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage. Ce dernier l'accuse d'avoir livré de fausses informations. Selon la radio-télévision Isanganiro, Blaise Pascal Kararoumiyeh a reçu l'ordre de montrer à l'autorité provinciale concernée les informations produites avant chaque diffusion. Contraindre un journaliste à montrer chaque fois l'information produite avant toute diffusion est contre l'éthique du métier de journaliste. Selon l'Union burundaise des journalistes, l'UBJ dénonce par ailleurs le harcèlement que subit son correspondant de la radio-télévision Isanganiro en province Karoussi. On écoute Alexandre Niyungeko, président de l'UBJ.
L'Union burundaise des journalistes est vraiment très préoccupée par le harcèlement dont fait objet notre confrère Kararoumiyeh, correspondant de la radio Isanganiro dans la province de Karoussi. Nous constatons que les convocations intempestives et surtout ce qu'on lui demande de faire vient fouler aux pieds la loi, notamment la loi sur la presse, mais aussi et surtout la charte mondiale de l'éthique des journalistes qui d'ailleurs a été révisée en juin 2019 à Tunis lors du congrès mondial de la Fédération internationale de journaliste et surtout à son article 11 qui stipule que le journaliste s'interdira de se comporter en auxiliaire de police ou d'autres services de sécurité. Il ne sera tenu de remettre à ses services que des éléments d'information rendus publics dans un média. Or, on demande à ce journaliste de d'abord révéler ce qu'il va publier dans le média avant que ce ne soit publié. Cela ne se fait nullement et c'est ni une violation de la loi et ça ne peut se passer qu'au Burundi, où justement la loi sur la presse, la liberté de la presse est foulée aux pieds, où justement les droits des journalistes ne sont plus respectés.
Cap sur le sud du pays, le président du tribunal de résidence Lumongué a été démis de ses fonctions. Deo Niongabo était accusé de corruption par la population. Il n'avait pas nié les faits devant le ministre de la Justice lors d'une descente effectuée en avril dernier à Lumongué. Les détails avec Eddy Claude Nenina Hazgwe.
Deo Niongabo, ancien président du tribunal de résidence Lumongué, est accusé d'être en France dans les différents procès du tribunal. Selon les témoins sur place, il voulait auditionner tout le monde alors qu'il y a d'autres juges pour l'aider. D'autres ont insisté sur le fait que deux procès étant sur le niveau national soient retirés pour les auditionner lui-même au tribunal de grande instance de Lumongué. Tout cela, il le faisait pour encaisser la corruption. Toutes ces accusations ont été portées devant le ministre de la Justice, Dominique Banyarimbona, lors d'une descente qu'il avait effectuée à Lumongué au mois d'avril de cette année. Deo Niongabo n'a pas nié les faits. Le ministre lui a donné 2 semaines pour corriger tous ses manquements.
En vérité, que tu sois en ordre ou pas, si tu ne donnais pas un pot de vin,
pas n'importe lequel, tu ne pouvais pas être auditionné. Ils demandaient des millions. Certains ont même abandonné leur procès parce qu'ils leur avaient demandé une somme colossale. 8 millions, 10 millions et plus. Des propriétés foncières sont parties. Les gens sont dans le désarroi. Nous nous réjouissons de son remplacement. Nous demandons que cela ne se limite pas là. Il faut qu'il soit poursuivi en justice pour répondre à ses actes. Des preuves tangibles pour ceux à qui il a demandé des pots de vin sont là, tout comme ceux dont il a spolié des terres. Vous avez même vu qu'il ne s'est pas présenté dans une réunion que le président de la République avait organisée, alors que toutes les autorités étaient sur place. Il avait honte parce qu'il avait quelque chose à se reprocher.
Les habitants de Rumonge se disent relaxés. Ils demandent toutefois qu'ils soient poursuivis et punis conformément à la loi. Ils demandent à son successeur Emmanuel Ndayizeguiye de ne pas emboîter le pas à son prédécesseur.
Inzamba. Restons dans la province de Rumonge pour parler du mécontentement chez les enfants en situation de rue et les adultes qui mendient au chef-lieu de cette province. C'est suite à la mesure qui les empêche de quémander dans les rues. Ces mendiants souhaiteraient avoir la possibilité d'apprendre des métiers pour pouvoir se prendre en charge et ainsi vaincre la pauvreté. On fait le point avec Pierre Gahungu.
Ces personnes qui mendient sont pour la plupart des enfants, des gens adultes composés d'hommes et de femmes. On les trouve partout dans la ville, notamment autour du marché central de Rumonge, où des femmes quémandent souvent avec leurs enfants, en attendant des bienfaiteurs qui peuvent leur donner un peu d'argent ou une autre aide. La même situation s'observe dans des rues où certains dorment même à la belle étoile, surtout dans des rues à forte circulation. Les personnes de toutes ces catégories disent ne pas avoir bien accueilli la mesure du gouvernement leur interdisant de mendier. Ils disent que la raison majeure qui les pousse à agir ainsi n'est rien d'autre que la pauvreté qui sévit dans leurs familles respectives et qu'ils ont préféré aller quémander plutôt qu'aller voler. Les enfants disent qu'ils vont dans les rues après avoir été chassés par leurs parents en conflit dans les ménages et d'autres disent être orphelins et n'ont pas pu être pris en charge par les familles proches. Et les adultes et les enfants, tous disent qu'il serait mieux que le gouvernement résolve ces problèmes, surtout le problème de pauvreté, au lieu de les chasser. Certains voudraient avoir de petits financements pour faire des projets générateurs de revenus, d'autres encore souhaiteraient apprendre des métiers pouvant leur permettre de se prendre en charge.
Suite à cette mesure contre la mendicité, il n'y avait pas beaucoup de mendiants dans différents endroits de la province de Muyinga ce vendredi, selon le constat de notre source. Certains parmi eux étaient habitués à tendre la main dans les rues, aurait changé de tactique pour ne pas être identifié et arrêté. Les détails avec Eddy Claude Ninina Hazwe.
Comme l'indiquent nos sources de la province de Muyinga, devant les restaurants, les magasins, les banques et les hôtels, des lieux où sont rassemblés habituellement les enfants en situation de rue et les mendiants, ces deux catégories de gens n'y sont plus. Une seule mendiante apparemment malade mentale s'est vue s'approchant des occupants de véhicules en stationnement. Toutefois, certains enfants en situation de rue ont été vus au chef-lieu de la province Muyinga, se déplaçant par petits groupes de deux enfants très vigilants pour pouvoir échapper à une éventuelle interpellation. Ces enfants restent très méfiants. Ils ne parlent à personne d'autre sauf que en familier. Au niveau de l'administration, la mesure de retrait de ces enfants ainsi que la cessation de la mendicité en province de Muyinga doivent être appliquées dans sa rigueur, rassure un administratif sous anonymat. Le peu d'enfants qui font encore la sourde oreille à l'appel du gouvernement doivent suivre l'exemple de ceux qui ont déjà vidé les lieux, déclare-t-on.
Pour clore ce journal, la diaspora burundaise est estimée à 321 000 Burundais, c'est-à-dire 3% de toute la population burundaise. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'association partenaire pour la paix et la prospérité rendu public en ce mois de juillet. Selon ce rapport, le Burundi gagne environ 45 millions de dollars américains grâce aux transferts effectués chaque année par la diaspora. Il gagnerait plus s'il écartait certains défis selon le même rapport. Jean-Genis Ménian.
Parmi ces défis, comme l'indique le rapport, figure la politisation de la diaspora, un frein à la mobilisation pour le développement. Des hauts responsables burundais ont pendant longtemps méfié la diaspora, à la considérant comme des opposants politiques au régime et que rien de bon ne peut venir d'eux. Le deuxième défi est le fait que la diaspora est écartée dans la prise de décisions politiques et économiques. Au Burundi, la reconnaissance du rôle de la diaspora n'est pas définie. Les conférences organisées annuellement sont axées sur le programme du gouvernement et du parti au pouvoir. La majorité des participants n'apporte pas un regard critique aux stratégies mises en place. Un autre défi est celui de la mauvaise gouvernance financière. Avec les 321 000 Burundais de la diaspora, le Burundi pourrait facilement gagner environ 591 millions de dollars américains par an, au lieu de 45,6 millions de dollars qu'il encaisse actuellement. Les 591 millions de dollars équivalent à peu près à l'aide de développement que le Burundi reçoit de ses partenaires, estimé à 600 millions de dollars américains en 2017. Aussi, ajoute le rapport, il faut considérer la diaspora comme un partenaire pour l'investissement privé, un partenaire technique et le meilleur délégué commercial et culturel. L'organisation Partenaire pour la paix et la prospérité dénombre actuellement 32 000 Burundais de la diaspora hautement qualifiés avec des diplômes universitaires qui pourraient apporter un plus-value dans le développement du Burundi.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir écouté. Excellent week-end à tous. Au revoir.